Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous y sommes de retour avec notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Nous ne pouvons pas bien sûr diffuser aujourd'hui ou présenter le témoignage de d'autres victimes de l'abus de l'autorité et voir notre réaction vis-à-vis à ce feuilleton interminable de l'injustice ici au Québec. Mais faute de la crise qui ébranle le Québec ces jours-ci, nous n'avons pas le choix de revenir sur cette grève historique de nos étudiants, une grève qui ajoutera fortement une page à l'histoire du Québec. Une grève qui a fait parler d'elle-même derrière nos frontières. Alors, imaginez-vous même, Pauline Marois, chef de l'opposition officielle du Québec, confirme ouvertement que cette crise est provoquée par le Premier ministre Jean Charest. Donc une crise qui dévoile encore une faiblesse, malheureusement, de notre gouvernement. N'oubliez pas que le maintien de la paix sociale est le premier devoir du Premier ministre. D'ailleurs, plusieurs déclarent en signe d'alarme que cette paix sociale est en jeu présentement. Nous constatons aussi que toute la colère est sur le bord de s'exploser. Alors, il faut-il attendre le drame ou l'irréparable afin de reculer? Voilà, c'est toute la question que se pose aujourd'hui. Cette force excessive utilisée par le gouvernement pour enlever aux étudiants cette légitimité qui les appuie dans leur contestation est devenue objet critique par la presse internationale, sans vous dévoiler bien sûr l'usage abusif de l'autorité policière. On parle ici d'arrestations massives, potentiellement arbitraires et intimidation, discréditer les manifestations quelques minutes après leur déclenchement, et j'en passe. Maintenant, question qui se pose, qui porte le fardeau de l'échec dans ce conflit, celui qui a refusé le dialogue, qui a fermé les portes des négociations, qui méprise les contestations, qui agit de mauvaise foi, qui bourré de l'orgueil, qui ne mesure pas le risque du dérapage, bref, celui qui se montre Dieu le Père, ou plutôt ces jeunes qui réclament une table de négociation, une voie de dialogue, une considération dans une société aussi démocratique, soi-disant, que la nôtre. Nous savons tous que les étudiants se sont présentés devant la ministre de l'Éducation avec des solutions, avec des propositions, le projet d'une vraie discussion, une ligne libératrice du conflit. Ils attendaient une permanence, ou si vous voulez aussi, ils attendaient d'une personne à la hauteur du dialogue, à la hauteur de la crise, une personne à la hauteur de la solution, une personne capable de les convaincre de revenir en classe. Mais malheureusement, la ministre de l'Éducation apparemment n'avait rien à proposer sinon le refus de la rencontre, l'échec du dialogue, l'exclu et la cristallisation de l'impasse. Je ne reviens pas comment l'homme politique, qui est soi-disant dupe du dialogue, rejette l'occasion qui s'offre devant lui. Savez-vous pourquoi la ministre maintenant n'a pas pu entraîner un dialogue avec les étudiants? C'est parce qu'elle savait d'avance qu'elle n'était pas à la hauteur de le faire. On l'avait déjà dit et on le redit qu'elle n'avait pas le charisme approprié pour une telle tâche, qu'elle est ordonnée et téléguidée par le ridicule de Jean Charest. Donc ces manœuvres d'opérer une telle crise, malheureusement, ne lui appartiennent pas. C'est donc ici aussi voir que c'est l'étoffe, le style de Jean Charest, allumer le feu et rester observateur sans réaction aucune. Cet homme-là a besoin d'aide. Il faut que quelqu'un le brasse, le réveille. Mais encore réveiller Jean Charest, ce n'est pas aussi évident que vous le pensez. Mais cette personne ne pourra pas être que vous. Que vous, chère auditrice, chers auditeurs, et personne d'autre que vous. Il prétend faussement qu'il a votre soutien, mais en réalité, il le sait qu'il a votre mépris. Et pendant tout ce temps-là, interminable de la crise, de l'attente, le Premier ministre observe, comme un gamin vicieux de très petit peu, de loin comme ça, sa ministre loin comme ça, en train d'encaisser coup après coup des faiblesses ridicules. Combien ce temps va-t-il durer maintenant de cette crise? Probablement, puisqu'il y aura forcément bientôt un médiateur qui va sauver la face terne de ce gouvernement et un retour espéré au calme et à la paix réclamé hautement par tout le monde. Encore à quel prix? Ça prendra sûrement plus de temps pour évaluer les pertes. Qui est responsable, en définitive, c'est le Premier ministre Jean Jarret. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM et au micro avec vous ce matin, Adjizitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui, soi-disant, fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Avec moi aussi, comme d'habitude ce matin, mon collègue Roland Cazès, un militant avide de justice dont sa voix se dessine une certaine colère que nous partageons tous. J'ai aussi Edgar Robin, un autre militant de notre mouvement. J'ai également, ce matin dans le studio deux invités. J'ai Monsieur Dominique Fréchette, et il est étudiant à l'UQAM, troisième année sciences politiques, et également j'ai Madame Megan Johnston, maîtrise en communication à la même université. Donc tous les deux, ces invités-là, sont venus aujourd'hui pour partager avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, leur inquiétude et nous dire comment ils vivent ce moment de crise et à quel prix. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous revenons avec la suite de notre émission.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et des pauvres.
Voilà donc, rebonjour chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. D'abord, j'aimerais juste répéter, donc je remercie mes deux invités qui sont là devant moi, Monsieur Dominique Frichette, qui est un étudiant en sciences politiques à l'UQAM, et Madame Megan Johnston, est-ce que c'est bien prononcé, en communication. Maîtrise en communication dans la même université de l'UQAM. Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Donc la première question, je poserai directement à mon collègue Roland Cazès. Roland, vous savez comme moi que Marois, elle n'est pas la seule, elle disait que dans l'impasse qu'on vit aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a provoqué tout ça, la crise. On parle de la crise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui de ça?
Effectivement, le gouvernement cache quelque chose, soit des élections, soit il veut cacher les enveloppes qu'il a reçues de la mafia, de ceci, de cela, pour faire son financement. Qu'on parle des étudiants, on ne voit pas le reste.
Vous pensez qu'il détourne le regard?
Comme dit un peu
Kabir,
l'arbre qui cache la forêt. Oui. Okay? Ce que moi j'essaye maintenant de dire, des étudiants, on les entend se plaindre, et ils disent, on va vous dire quoi faire pour administrer, parce que la ministre n'est pas capable d'administrer. Elle dit, oui, je voudrais que vous fassiez ma job. Mais elle ne le fait pas. Ce que j'essaye d'expliquer, Monsieur Zizian est passé à l'émission avec Madame Anne-Marie Dussault. Et Madame Anne-Marie Dussault est vraiment une animatrice formidable. Et ce monsieur nous déclare que nous avons des recteurs qui sont au Brésil, à l'heure actuelle.
Ouais.
Les journaux n'en parlent pas. Que nous avons dépensé à l'université 80 millions pour la publicité.
Ouais.
Est-ce que vous êtes au courant? Les journalistes n'en parlent pas. Je me pose la question, est-ce que les journalistes reçoivent aussi du gouvernement des enveloppes brunes par hasard?
Oui.
Est-ce qu'ils doivent garder le silence et on met toute la faute sur les étudiants?
Donc Roland, pour vous, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que toute cette crise-là, elle était justement pour détourner le regard.
Exactement. Elle est montée de toutes pièces. Et il y a une solution.
Oui.
Et cette solution, c'est l'opposition qui doit se présenter. Madame Marois, Monsieur Kadir, Monsieur Legault doivent sortir de la chambre et dire « Nous ne négocions plus avec un Premier ministre, Monsieur Charest, qui ne veut pas, lui, négocier avec les étudiants. Nous nous retirons. » Et là, automatiquement, le système va se déclencher. Il est obligé de s'asseoir avec les étudiants. Il est obligé de négocier. Ils ont cette possibilité-là. Ça a déjà été fait. Pourquoi ne pas la refaire encore une fois?
Et selon aussi les paroles de le maire Tremblay, que réellement la paix sociale est en jeu aujourd'hui.
Eh bien, je vais rappeler Monsieur Tremblay que l'île qu'il a achetée, une espèce encore de constructeur italien, mafioso, je veux rien contre les Italiens, vous savez que je suis multiculturel, les Italiens, quand on a acheté une île qu'ils ont payé 300 000, on l'a payé 8 millions, je vais lui rappeler les terrains qu'il a payé 7 700 000 qui ont été évalués à 10 millions, qu'il a donné à un Italien constructeur pour 1 500 000, je m'excuse, mais on dilapide les sommes d'argent du peuple.
Non, mais on parle de la paix sociale, mais...
Mais cette paix sociale, nous voudrions la voir aussi.
Okay.
Cette mafia qui est rentrée partout dans les gouvernements,
voilà, donc
ça suffit.
Je passe directement à mon invité d'aujourd'hui, Dominique Frichette. Bonjour et merci d'être ici parmi nous aujourd'hui.
Merci à vous.
La première question, j'aimerais bien que vous avez entendu parler un petit peu Roland Cazès. Quel est le regard que vous avez vis-à-vis au comportement du gouvernement face à cette crise qui ébranle le Québec aujourd'hui?
Ben en fait, il y a un grand désappointement en fait face au comportement du gouvernement, parce qu'on voit en fait qu'il n'y a pas de réelle volonté
de négocier
ça, mais de trouver une solution en fait à la crise, parce qu'on voit ça a commencé, la grève a commencé en février, début février, pendant des semaines et des semaines, on nous disait on vous écoute, mais la décision est prise, on ne veut rien savoir, on ne veut pas négocier, la décision est prise, elle a été réfléchie, on veut rien savoir, le mouvement augmente. En avril, nous étions 300 000 en grève, 300 000 en grève, et à la marche, nous étions la plus grosse manifestation, qu'on croit en ce moment la plus grosse manifestation.
De 200 000, 22 mars?
Oui, on disait même plus que ça, en fait. On disait au-dessus du 200 000, en fait.
Ouais.
Et là, le gouvernement ne veut rien savoir. Et là, finalement, on voit les injonctions qui finissent par arriver dans les universités et on fait rentrer du droit là-dedans pour essayer de forcer les gens à retourner à l'école.
Mmh.
Et là, des gens, tout d'abord, ça vient du public, c'est des gens qui utilisent ces injonctions-là. Et là, Lynn Beauchamp, qui dit nous respecter nos droits depuis le début, nous dit, va encourager dans les médias plus de gens à faire des injonctions comme ça, exactement, à utiliser des injonctions. Donc, mm-hmm, on est en train, et moi, je trouve ça très dangereux, en fait, parce que ces gens-là ont des
pourtant, les étudiants, ont voté, hein. Ils ont,
oui, c'est ça. Mais ça, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui se rendent à l'école dans l'intention d'aller à leur cours et de briser les lignes de piquetage. Donc, le gouvernement n'est pas dupe. Le gouvernement le sait qu'ils prennent et qu'ils mettent des gens comme char à canon qui vont se rendre en avant des universités et qui risquent d'avoir des confrontations. Et c'est ce qui est arrivé à l'Université de Montréal, c'est ce qui est arrivé à l'UQO. Je veux dire, c'était prévisible et c'est parce que le gouvernement a encouragé les gens qui n'étaient pas d'accord, par exemple, avec les votes de grève, à briser les décisions qui ont été prises, à utiliser la justice pour rentrer. La justice, hein, je parle de l'institution.
Les institutions aussi, mais...
pour forcer les gens, pour encourager les gens à faire la job qu'eux ne voulaient pas faire, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, on va briser le mouvement par l'intérieur au lieu de nous asseoir et de faire quelque chose avec ça.
Pour vous, Madame Johnston, pour vous, cette manière du gouvernement, hein, le comportement du gouvernement d'essayer de tenter d'étouffer un petit peu la voix du mouvement dans un pays démocratique comme la nôtre, soi-disant, quel est votre sentiment aujourd'hui?
Bien, c'est sûr que ça provoque beaucoup de colère, puis on se pose pas beaucoup de questions pourquoi il y a beaucoup de rage qui s'exprime dans les manifestations. C'est sûr que après là, on est rendu à 74 jours de grève. C'est sûr qu'on ne se sent pas écouté.
Il y a 160 manifestations jusqu'à présent.
Pardon?
Il y a 160 manifestations jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous là, le nombre. Hein. Mais à travers tout ça, vous avez ce sentiment toujours, j'imagine, vous partagez comme votre collègue ici, comme quoi le gouvernement fait tout pour étouffer cette voix-là, cette contestation-là.
Et non seulement pour étouffer, mais pour vraiment réduire les paramètres du débat en posant des stratagèmes médiatiques pour isoler des problèmes vraiment minutieux qui n'ont rien à voir avec le débat réel. Donc, c'est-à-dire des actes de vandalisme. On fige beaucoup Gabriel Nadeau-Dubois. On le vit l'année, c'est vraiment rendu hollywoodien. On parle plus des vraies affaires, on parle plus des droits de scolarité, on parle de l'acte de cirque qui se passe dans les rues. Puis c'est rendu complètement frustrant pour quelqu'un qui est engagé. Je pense que Dominique peut partager mon sentiment. On est engagé, on est informé, on se sent préoccupé par cette question précisément, mais ce que ça englobe aussi, c'est pas juste une question de payer 1625 de plus au cours de après 5 ans, c'est aussi un débat social sur la structure de notre société, sur des décisions, puis toute une entraînée de néolibéralisme qui se passe depuis une trentaine d'années. Puis on est tanné, on voit que ça marche pas, on a vu ce qui est arrivé avec la crise économique en 2008, puis que le seul moyen de s'en sortir, c'était de débourser des sommes extraordinaire à des industries qui en étaient responsables. Ouais. Donc, tu sais, c'est tout un mouvement social qui va beaucoup s'installer au-delà des chiffres. C'est vraiment une structure. Puis on parle plus de ça. On parle vraiment juste des petits jeux politiques du gouvernement libéral.
Je
vous en prie, oui.
Vous savez, je trouve, moi, que c'est la continuation de l'indignation.
Absolument.
La manifestation de l'indignation, elle continue au niveau étudiant, qui on s'en conscient parce qu'on leur a enseigné, voyez-vous, tandis que les autres sont peut-être un peu plus ignorants des problèmes.
Oui. Mais Madame Johnston, vous êtes en communication et tout, je me permets de vous poser la question. L'aspect médiatique aujourd'hui, ici au Québec, pensez-vous pas qu'il est un petit peu lui-même flou, perdu un petit peu? Des fois, on le voit vers le côté gouvernement, et quand il voit que les étudiants ils ont gagné du terrain, donc il revient. Donc, comment vous situez la position des médias aujourd'hui, les grands médias, je parle?
Mais comme d'habitude, dans n'importe quel enjeu, c'est assez réducteur, puis on comprend, et on peut pas tout dire non plus dans 500 mots, mais ça réduit, puis c'est redondant, on répète les mêmes affaires. On parle de Gabriel, puis comment qu'il devrait condamner et non dénoncer, puis s'attarde aux détails sans vraiment plonger dans
le fond.
Dans le fond, voilà.
Oui. Mais ce n'est pas le rôle des médias normalement que d'aller déclencher le fond à surface, c'est ça?
Absolument, mais je pense qu'on est dans un...
Est-ce qu'ils ne participent pas un petit peu à ce jeu-là du gouvernement de rester un petit peu sur la superficie, non?
Tout à fait,
Oui.
Il y a des choses qu'il faut. Les étudiants n'ont pas tort. Vous savez sûrement la date à laquelle ça s'est passé. À l'international, tout le monde a proposé que un jour les étudiants étudieront gratuitement. Oui. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Il faut absolument que l'on voie à ce que tous les cours, surtout au Québec en particulier, nous qui sommes plus faibles dans tout ce Canada, dans toute cette mer, que les études soient gratuites.
Oui. Monsieur Frichette, oui.
Oui, c'est intéressant cette logique-là. En fait, ce dont vous parlez de la gratuité scolaire, en fait, parce qu'on voit que au Québec, il y a pas de volonté de privatiser ce qui est école primaire, école secondaire, en fait. Ouais. Donc on dit ça c'est correct, ça c'est normal que ça soit gratuit, mais à partir du cégep, à partir de l'université, vous devez payer. Donc c'est dire indirectement, on dit vous êtes plus des étudiants, vous êtes des travailleurs. Vous n'êtes mm-hmm. plus, ce n'est plus une occupation à temps plein les mm-hmm. études, c'est en même temps que le travail. Ça veut dire, vous devez les payer parce que moi, je
si vous êtes travaillé, tu dois être payé.
Edgar, oui.
On est étudiant. Il y a quand même des parallèles qui ont été faits. L'IRIS le mentionnait. Il y a des parallèles qui sont faits entre le nombre d'études et le nombre d'heures de travail et les insuccès à l'école. Mm-hmm. C'est donc dire, il y a des gens qui n'ont pas de succès à l'école parce qu'ils travaillent trop. Et c'est qui les gens qui travaillent trop? C'est ceux qui n'arrivent pas à payer leurs études. Donc, c'est vraiment viser une classe de personnes qui n'arrivent pas, qui sont déjà les gens qui ont le plus de problèmes dans notre société, en fait, dire, vous allez travailler en même temps. Mais je veux dire, tous les coûts montent partout, et là, on dit, ben maintenant, vous devez payer.
L'autre chose, c'est que c'est pas toujours facile de trouver un job, de toute façon.
On épuise ces gens.
Madame Johnston, je vais juste poser une question aussi. On entend souvent comme quoi la population est de côté du gouvernement. Alors que nous, on voit le contraire, c'est-à-dire que la population appuie et sont du côté des étudiants. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle nous dire aujourd'hui? Vous êtes étudiante et citoyenne en même temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Mme Johnston?
Ben, il faut dire que je suis anglophone, je viens du milieu anglophone, et je pense qu'il y a vraiment une distinction majeure entre les deux communautés en ce moment. Ouais. Puis on doit pas trop se poser de questions là-dessus, c'est-à-dire que les anglophones n'ont pas d'autre choix politique que les libéraux s'ils veulent rester au Canada, qui est la préoccupation majeure.
Oui.
Donc, on se fie à une perspective sur le mouvement qui est réduit à des lentilles libéraux, oui. dans le fond. Puis, je sens que l'opinion publique du côté anglophone, ça va beaucoup dans ce sens-là, en général.
Oui, oui.
Donc,
c'est un petit peu, c'est un enjeu politique, quoi.
Oui, voilà.
Je reprends aussi Monsieur Frichette, qui est en sciences politiques. Je me permets de vous demander, plusieurs souhaitent suspendre, si vous voulez, le conflit, autrement dit, les gels de droits de scolarité, pour une année, par exemple, le temps que les esprits se refroidissent et reprendre des négociations par la suite. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pensez-vous que c'est la meilleure méthode qu'il faut faire, là, qu'il faut suivre? Est-ce que pensez-vous pas que ça va dégénérer autrement, c'est-à-dire juste essayer de suspendre pour s'en reprendre aussi de nouveau, il faut vraiment régler le problème maintenant?
Mais je veux dire, je vois pas de raison de ne pas le régler maintenant, en fait, le problème.
Non, parce qu'il y a
Je veux dire, on a eu une trêve inutile, je veux dire, le problème aurait pu être réglé il y a bien longtemps, sauf que là, ça se fait rapidement, là. Je veux dire, les négociations, c'est pas besoin de durer des mois et des mois. Je veux dire, on s'assoit à une table et on parle. Sauf que là, on exclut la classe, on réexclut la classe, on trouve un moyen d'essayer de briser le mouvement sous des prétextes utiles. Mm-hmm. Le gouvernement sait très bien comment la classe fonctionne. Elle sait que c'est pas une structure hiérarchique, il y a pas moyen d'empêcher le mouvement de faire ce qu'il veut, en fait. Alors, il y a des manifestations qui vont s'organiser.
Mais vous savez très bien que le gouvernement, tout ce qu'il veut, c'est d'écarter de la table de négociation les frais de scolarité.
Oui, c'est exactement ça. Donc,
classe s'impose et la classe maintient ce sujet sur la table.
Oui, mais la FEC et la FERC aussi veulent en parler.
Oui.
Alors, c'est
mais
c'est
pas autant comme la classe, elle est vraiment ferme sur l'idée d'amener la question.
Je suis quand même ferme pour vrai de la FEC et de la FEC parce qu'on a eu peut-être quelques problèmes en 2005, il y avait eu quelques problèmes avec eux, mais cette fois-ci, je trouve qu'il y a une solidarité incroyable.
Oui.
Le mouvement dure depuis longtemps.
C'est ça ce qu'il faut.
Les étudiants, je pense qu'on est aussi tannés que la population. Là, on n'est pas en congé, on n'est pas en train d'avoir du fun. Nous. Je veux dire, on a envie d'y aller à nos cours.
Retourner aux cours.
On aimerait ça que ça se règle. Et non, le fait de prolonger le débat, ça, pas de l'arrêter et de continuer plus tard, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien.
Ouais. De suspendre et de reprendre dans un an, dans deux ans, pour vous,
ça sert à rien.
C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes arrivé à un point de non-retour qu'il faut régler le problème maintenant, définitivement. Qu'est-ce que vous pensez?
Absolument. Je pense qu'il n'y a plus moyen de reculer.
Oui. Il n'y a pas de moyen pour vous pour reculer à cette position.
Non, absolument pas.
De toute façon, le mouvement ne s'organisera pas, en fait, de toute manière. Je veux dire, on est comme trop nombreux pour d'une même voix tout reculer, même voix tout repartir par la suite. Alors, c'est mieux de continuer maintenant, en fait.
Mm-hmm. Je reviens toujours avec vous, M. Frichette, parce que vous êtes en politique. On propose pour que le gouvernement sauve la face un médiateur. Qui va intervenir entre les deux forces pour essayer de régler, sortir et trouver une porte de solution. Pensez-vous que c'est une possibilité qui est accessible et qui va amener des fruits?
Ben, en fait, ça me fait penser qu'Amir Kadir avait proposé, lui, d'être le médiateur. J'ai trouvé que c'était une... ce serait une solution.
Mais lui, c'est pour la gratuité, là.
Je sais pas, en fait, parce que là on dit médiateur, mais il faudrait déjà que le gouvernement veuille s'asseoir, je veux dire.
Et quel médiateur aussi, hein.
C'est ça, mais je veux dire.
Vous avez cité un exemple qui était bien aussi. Dans quel sens aussi? Oui.
En définitive, combien que ça nous a coûté cette grève en policiers, en heures supplémentaires, avec tous ces gens-là? Ils veulent négocier avec la matraque. Et ils appellent, les étudiants sont violents. Vous êtes contre la violence, mais ils négocient avec la matraque. Les policiers, la matraque, et on cogne. Alors, moi, je m'excuse, la violence vient du gouvernement. Alors, c'est ça.
Voilà. Peut-être revenir maintenant sur les manifestations d'hier. Pensez-vous, et ça a changé un petit peu les manifestations maintenant, ils sont plus pacifiques. On voit que depuis, ils sont pacifiques, depuis leur démarche. Les quelques-uns là, qui créent des problèmes dans ces manifestations, comment vous les décrivez, ces gens-là?
Ben, je pense que j'étais à la manifestation mercredi soir et la réaction générale, aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui semblait...
C'est les manifestants eux-mêmes qui...
Les manifestants eux-mêmes vont faire un gros bou. T'sais, c'est condamné immédiatement. Ça ne nous représente pas. On sait bien que ça ne nous représente pas. C'est des cas individuels. C'est des extrémités. Il y en a dans tous les mouvements. Il faut prendre ses distances, mais...
C'est même possible que c'est des gens qui sont à l'extérieur du mouvement étudiant.
Oui, puis même
et c'est
police,
même possible...
Alors, on va juste... Alors, si vous permettez, on va juste prendre une annonce publicitaire et on va revenir à notre sujet après la pause. Restez à l'écoute.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Ça. Zouk, Lambada, Bossa Nova, Fado, Hip Hop, Tagamofi, Mala, Hango, Samba, Merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
Parler anglais.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et nous sommes aujourd'hui avec deux de nos invités, deux étudiants qui sont venus nous parler de la crise qui ébranle le Québec aujourd'hui. Donc, j'ai avec moi, pour le répéter, monsieur
Dominique
Fréchette et Madame
Megan Johnston.
Johnson, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ma première question, je la poserai à Edgar Robin, qui est un militant de notre mouvement. Vous étiez, Monsieur Edgar, vous avez participé presque à toutes les manifestations.
Non, pas toutes, mais un certain nombre.
Certain nombre. Oui. Et vous m'avez souligné avant d'être sur les ondes comme quoi, comment les policiers, la SPVM, ont trouvé des solutions rapides pour discréditer les manifestations, pour les rendre illégales, c'est ça?
Ben effectivement, je trouve que même l'idée de déclarer toute une manifestation illégale parce qu'une minorité fasse des choses illégales,
mais quand on parle des minorités, on parle de 3, 4 personnes.
Bon, quelqu'un on ne sait jamais ça. Ça peut aller même à 50. Si vous avez une démonstration avec 10 000 personnes, il peut être 50 casseurs là-dedans. Mais est-ce qu'on met fin à une démonstration démocratique et surtout paisible parce qu'il y a un certain nombre de casseurs? Ça fait pas de sens. Je pense que la police doit être capable de gérer la situation, d'aller trouver les casseurs.
Pour vous, ils peuvent pas aller avec cette facilité décréter une manifestation illégale.
C'est un prétexte, d'après moi. Oui. J'étais sur l'Internet hier soir, sur Twitter, etc., et j'ai été notifié d'une nouvelle page sur le site web SPVM. Oui. Moi, j'ai la version anglaise devant moi, mais ça parle de comment reconnaître une démonstration illégale. Et je trouve que le langage, c'est un peu, en anglais, on dit Orwellian, c'est comme 1984. Et il y a des choses, c'est présenté comme très civilisé, tout ça, mais regarde ça. Je vais lire ça en anglais parce que j'ai la version anglaise devant moi. In the event of public disorder, the SPVM is obliged to rapidly intervene to reestablish social peace with their grenades. mais c'est pas fini. Mais the goal, the goal is to put an end to the demonstration, which means that all must vacate the site. Alors on peut dire le but c'est de mettre fin aux manifestations, et ce que veut dire que tout le monde doit quitter les lieux. Voilà. Ça se fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Et
si on pêchait réellement le droit en manifestant,
il veut mettre fin à la démonstration.
Le rôle de la police. C'est justement d'arrêter ces gars qui cassent, qui démolissent et qui volent et ainsi de suite. C'est son rôle, la police. C'est pas le rôle de taper sur les manifestants.
Ouais, mais il faut faire attention.
Moi, j'étais aux plusieurs
manifestations.
Ou si j'étais pas là, j'ai vu ça sur YouTube, où la police lance des grenades assourdissantes, assourdissantes, au milieu de la foule. De gens paisibles, des gens qui font absolument rien illégal, mais ils lancent quand même les grenades pour disperser le monde. Et ça, c'est une autre chose. À un moment donné, vous avez une manifestation paisible de peut-être 1000, 5000, 10000, 100000 personnes. Puis, quand tu lances les grenades et tout ça, maintenant, vous avez une demi-douzaine de manifs un peu partout. Ça crée la chaos, d'après moi.
Il y a quelque chose aussi, moi, que je voudrais parler. C'est le gars qu'ils ont arrêté dans le métro. Je m'excuse, là, mais ils évaluent ce gars-là à l'âge de 25 ans. Ce gars-là a au moins entre 30 et 40 ans. OK? Il peut être étudiant aussi, attention. Mais c'est entre 30 et 40 ans, le gars met des bombes lacrymogènes dans le métro, on donne la photo et on prétend qu'il a 20-25 ans. Ça, c'est les journalistes qui sont pourris. Pourri parce qu'ils essaient de mettre ça sur le dos des étudiants. Ouais. Voilà ce que c'est. Alors moi, ça suffit, là. Le gouvernement est mal pris et là, il met tout sur la faute des étudiants. Vous savez, il y a un veau qui est né avec deux têtes. c'est de la faute de M. Dubois. Vous comprenez ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est de la faute des étudiants.
L'autre chose, sauf que je trouve très ironique dans cette déclaration-là, c'est que l'SPVM est obligé d'intervenir rapidement pour rétablir la paix sociale. Mais comment est-ce qu'on fait la paix sociale avec des matraques, avec le pepper spray, avec les... Ça fait pas de sens.
C'est un problème, en fait, parce que ce qu'on remarque, c'est que, je veux dire, ils veulent rétablir la paix et l'ordre. Donc, dans le fond, on regarde, il y avait une manifestation de 5000 personnes qui a viré à la meute il y a deux jours de ça, et t'as 5000 personnes, t'as une douzaine de vitrines qui sont détruites. Je n'appuie absolument pas le fait de détruire ou en fait, pour moi, c'est pas important dans ce que je dis en ce moment. C'est, oui, il y a eu de la casse. Et là, les policiers veulent intervenir. Sauf que là, le problème, c'est que t'as 5000 personnes dans les rues. Tu dis, la manifestation est déclarée illégale. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas entendu, que ça n'a pas été entendu par la foule. Il y a même des journalistes, même si on dit que les journalistes font pas nécessairement un travail excellent en ce moment, des journalistes qui disent on n'en avait aucune idée que c'était déclaré illégal. Ça s'est mis à péter dans nos oreilles, les flashbangs puis les lacrymos sont mis à exploser partout autour de nous. Et là, on veut disperser. Et ça dure combien de temps? Ça dure 2 heures de plus. Alors là, tu te dis, qu'est-ce que ça a rendu comme service à la population, ça? Tu disperses du monde, tu te mets à taper et là, la tension monte. Donc là, on est en train de dire, moi, je déplore le fait qu'il y ait du matériel qui est brisé, mais je pense que les êtres humains, ils sont comme un stade en haut du matériel, en fait. Là. Je veux dire, c'est peut-être plus... Moi, je trouve ça plus dommage de briser un être humain que de briser une vitrine, en fait. Alors, quand ils se mettent à lancer des choses, à attaquer, là, vraiment à charger et à dire on vous disperse, même si vous avez rien fait de mal, il y a comme un problème, on sait pas le bon monde, même si... Supposons, parce que je veux au moins essayer de croire le SPVM qui essaye vraiment de faire quelque chose de bien. Je veux au moins leur donner le bénéfice du doute. Je me dis, c'est pas la solution. Même en toute bonne foi, ça ne peut pas être la bonne solution.
Moi, je pense que, comme j'ai dit, la police doit être capable de gérer la situation. Elle doit être capable d'aller et trouver les casseurs sans perturber la manifestation paisible. Ça veut dire qu'il y a d'autres façons. Mettre des undercover, ils sont déjà là quand même, mais mettre des undercover pour garder un oeil même mettre des policiers en uniforme avec le monde, qui marchent ensemble,
voilà,
et qu'ils au lieu d'avoir l'anti-émeute, avoir 100 policiers dedans.
Savez-vous qu'il y a certaines écoles de police, des jeunes de l'école de police, qui sont parmi les manifestations?
Oui.
Nous avons découvert ça avec RDI. La dernière fois, j'étais avec 2 ou 3 collègues et on surveillait les lieux. Devant la baie, il y avait 2 gardes de sécurité avec des chiens afin de protéger les vitrines de la baie. Ça, c'est très bien. J'ai rien dit contre ça. Mais on s'est rendu compte à un certain moment, lorsque je demandais comment ça se fait, que c'est pas David Gentile qui anime l'émission, qui me dit il est ailleurs. Et puis là, je parle avec le gars, je dis qui c'est ce jeune-là. Il me dit ce sont des jeunes de l'école de police. Alors,
c'est des étudiants, c'est ça?
Étudiants de l'école de police. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ouais. Je voudrais le savoir. Parce que des fois, on crée des provocateurs. Nous aussi, on a eu des attaques lorsqu'on manifestait contre la violence policière.
Mais vous pouvez me confirmer d'ailleurs, les 2 étudiants ici, comme quoi je ne pense pas, moi, que les étudiants s'en vont à la manifestation avec l'idée de faire quoi que ce soit vous comprenez, avec la tête de casser quoi que ce soit. Les étudiants, vraiment, ils ont une idée claire. Ils veulent vraiment négocier, ils veulent trouver une solution à la crise qui est actuellement. Alors, s'il arrive quoi que ce soit maintenant, qu'il y a quelques personnes qui vont causer des troubles, ce n'est pas... Pourquoi on remet toujours la faute aux des milliers des étudiants? C'est ça la question que...
C'est ça. Même, parce que moi, comme j'ai dit, c'est bien possible que les casseurs... Un certain nombre sans rien à faire avec des étudiants, sans le black bloc, ne sais pas quoi. Mais comme je dis, même possiblement les agents provocateurs du police.
C'est ça.
Ça, c'est une possibilité.
C'est probablement que même si les policiers eux-mêmes ont dit qu'ils peuvent le faire.
C'est possible. Mais mon point, c'est même si c'est des étudiants, même si c'est les étudiants les plus radicaux, les plus extrêmes gauche et tout ça, c'est tu peux pas blâmer tous les autres étudiants pour ça.
Non seulement ça, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête à condamner, à déconstruire qu'est-ce qui devrait être considéré comme violence, sans se poser la question d'où vient cette violence, d'où vient cette colère, pourquoi est-ce qu'on est aussi frustré que ça, que ça s'exprime de même? Pourquoi est-ce que les médias s'attardent aux détails, au sens sensationnalisme, sans se poser les vraies questions derrière ça?
De toute façon, là, les policiers jettent des grenades. Vous, les étudiants, vous devriez jeter des confettis puis des papiers, là, vous savez, pour leur montrer que vous voulez jouer. Vous voulez
On essaye les feux d'artifice, voilà. Pareil, ça marche pas.
Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Hier soir, il y a eu deux arrestations, puis une, c'était pour utiliser les feux d'artifice. Oh. Et j'ai trouvé ça débile parce que c'est la police qui utilisait les feux d'artifice, les grenades à feu descendent et tout ça. Alors, moi, je recommande, si un étudiant veut utiliser les feux d'artifice durant une manifestation, il vaut la peine de travailler pour la SPVM.
Oui, mais quand ils disent que le trajet doit être indiqué, moi, je vais vous dire une chose, dans la stratégie militaire, je la connais très bien. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous amènent dans un endroit où il y a des côtes que vous ne pouvez pas vous en sortir, puis là, ils commencent à frapper. Et là, ils vous embarquent dans les autobus et tout ça.
C'est les arrestations.
Ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça.
Je vais revenir maintenant à M. Dominique Frichette, qui, moi, le titre Sciences politiques, qui m'amène à vous poser la question. Gérard de la Rose disait ce matin-là à la presse, il disait que le gouvernement ne cherche pas une solution, mais plutôt un drame qui polarise la société pour essayer de la faire basculer. C'est assez grave comme accusation. Comme blâme.
En effet, je veux dire...
Est-ce que les choses, ils peuvent aller vraiment, à votre avis, peuvent aller plus loin que ça? C'est-à-dire la poudre, elle peut vraiment s'enflammer?
Avec le gouvernement, entre le gouvernement et les étudiants?
Oui.
On le voit déjà, là, en ce moment. Je veux dire, on voit des gens qui sont en colère.
Non, mais attention, parce que le politicien ici, aujourd'hui, il dit que ça peut aller à un drame. C'est-à-dire que le gouvernement, il attend un drame pour reculer. Est-ce qu'il faut vraiment le prix de, vous comprenez, amener à la
Le premier drame, déjà, c'est les études là, qui sont abandonnées dans sens. Oui, ça, c'est un drame.
Quand je parle de drame, de la mort d'une personne, de quelqu'un.
Ça peut, oui.
Je ne sais pas ce que le gouvernement attend, en fait, parce que c'est une crise qui ne se règle pas et les étudiants ne reculent pas. Et, je dis, et là, ils essayent de nous discréditer en utilisant la violence tout le temps, en disant, on va focusser sur deux, trois problèmes. On va dire, la classe n'a pas fait son devoir, la classe fait pas ce qu'on veut, la classe... Mais là, tu fais comme, OK, il y a un problème et le gouvernement ne veut pas le régler. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, en fait. Vous me posez la question, mais...
On va juste peut-être prendre une pause musicale. Après avoir, peut-être je poserai la question à Mme Johnston, qui est le responsable réel derrière tout ça? Je vous poserai la question. On va prendre juste une pause musicale et on va revenir à notre émission après quelques moments.
Ils essaient de nous faire croire qu'on est client de son pays, que citoyen de sa patrie. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est client de son pays, que citoyen de sa patrie. Quand ils échangent ta cape soleil pour une carte de crédit, nous gavons de potions verbales qui ne soulagent aucun mal. Petit crédit, grosse maladie, mais y a pas de soin quand c'est privé. C'est justement là que t'en es privé. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est client de son pays, que citoyen de sa patrie. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est client de son pays, que citoyen de sa patrie. Quand le concierge s'empare des clés, qui appelle Rémax, pose et pancarte, vente de feu, vente de garage, que c'est pas t'es qui t'es payé. Y'a des odeurs de patronage, de propriétaire à locataire, ça serait du ça, les PPP. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire premier client de son pays, les citoyens de sa patrie, les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire accroire, premier client de son pays, les citoyens de sa patrie, quand ils s'assoient dans leur bureau, cachés derrière leur grand rideau, les idées fixent l'estomac plein, maintenant l'art d'équilibrer ce qu'il faut cacher, ce qu'il faut montrer, il se fabrique un paradis en nous jetant tous en enfer. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire premier client de son pays, que citoyen de sa patrie. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire premier client de son pays, que citoyen de sa patrie. Quand je suis tout seul dans mon petit coin, rien dans les poches, rien dans les mains, au fond des bottes, un froid humide, l'hydro coupé, le frigo vide, un petit revenu, des grosses factures, faudra sortir pour s'en sortir, parce qu'un homme, c'est pas un chien. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire qu'on est client de son pays, les citoyens de sa patrie. Les sous-traitants sont au pouvoir, ils essaient de nous faire accroire qu'on est client de son pays, que citoyens de sa patrie.
Là, voilà, bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Je reviens directement avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Megan Johnston. Et la question que je vous ai posée, qui est, d'après vous, le vrai, on ne dit pas le coupable, mais le vrai responsable plutôt de cette crise-là?
Mm-hmm. Ben, je pense que le mouvement étudiant a fait preuve de qu'il y a vraiment une crise
d'ouverture.
Pardon?
Les étudiants ont fait preuve d'ouverture.
Ils ont fait preuve d'ouverture, mais ils ont fait preuve qu'il y a une réelle crise qui se passe dans notre société en ce moment. Et le gouvernement, depuis le début, vraiment,
c'est
complètement isolé de la question. Oui. Ils veulent rien savoir. Ils ont fermé la porte aux négociations dès le début. Ça a été non conditionnel dès le début. Je pense que c'est irresponsable d'être aussi sourd.
Oui.
Sa population, oui, aux demandes de sa population, aux cris de sa population, comme quoi il y a de quoi qui ne va pas. Oui. Puis je pense que tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de m'exprimer pleinement sur la couverture médiatique, puis comment elle sensationnalise, puis elle réduit. Je pense qu'il faut quand même faire des nuances, puis il y a beaucoup, beaucoup de journalisme qui fait preuve, d'analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus critique, mm-hmm, envers le gouvernement. Puis je pense que la stratégie du gouvernement de diviser pour conquérir la population en, oui, isolant les petits problèmes, ben, il devrait se méfier, parce que je pense qu'on a une population assez intelligente,
mm-hmm,
pour voir à travers ça, oui, pour voir à travers leur jeu politique, puis, oui, pour voir que c'est complètement irresponsable de nier ce problème, cette crise.
Oui, c'est ridicule.
Dans la population, oui, entière.
Je reviens avec notre invité Dominique Frichette. Je lui pose la question de fond, hein, la question de base. Et qu'est-ce qu'elle implique réellement, cette fameuse, socialement, hein, cette fameuse hausse de frais de scolarité dans notre société?
Ben, ça implique, comme on a dit, en fait, plutôt une tendance néolibérale, en fait. On est en train de dire... Tout devient progressivement, en fait, parce que le gouvernement ne va pas le privatiser d'un coup, sinon, ouais, il va se mettre à dos bien du monde. Ils le font tranquillement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que là, dans le cas, en fait, la hausse, mais par rapport aussi à la grève elle-même, on,
ouais,
voit que si la hausse passe, malgré une des luttes qui dure, une lutte qui est historique, en fait, qui est très longue, qui est une des luttes, ouais, étudiantes les plus importantes, ça va vouloir dire qu'il y a personne qui se lève face au gouvernement et que personne ne peut vaincre le gouvernement après une décision. Ouais. Parce qu'on sait qu'historiquement, c'est les mouvements étudiants qui partent les plus gros mouvements, les plus grands débats dans nos sociétés.
Ouais.
On est capable de le faire, on est beaucoup, on est capable de les partir. Donc, si nous, les étudiants, on se fait casser les reins avec cette hausse-là, ça veut dire que tout passe, en fait. Et moi, ce que je dis...
Ça veut dire, vous êtes en train de nous dire... c'est-à-dire cette génération qui vient aujourd'hui, c'est quand même une lueur d'espoir, quoi.
Mais finalement. Oui, c'est ça, en effet. Et puis là, on voit des gens qui se mobilisent. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas mobilisé. Ouais. Et en tant que la société québécoise est comme dans une espèce de léthargie, on ne sait pas trop.
Aussi,
c'est
ouais.
ça, oui, il y a une impasse. Et là, on voit des gens qui bougent et on a un gouvernement qui
bouge. Des gens qui bougent.
Mais c'est bien, mais ça, okay, ça envoie vraiment un message au gouvernement de vraiment le dire que les choses sont en train de changer autour de lui. Il faut réfléchir autrement, voilà. Mmh. Ça, c'est le message.
Et c'est ça, et que c'est pas nos boss élus pour 4 ans, là, et que, je veux dire, la démocratie, ça se joue à tous les jours dans la rue. Là. Vous avez dit combien de manifestations?
160 manifestations déclarées.
160 manifestations.
Ça inclut la manifestation de Journée de la Terre.
La Terre.
Mais savez-vous...
Non, 160 spécialement uniquement pour le...
Savez-vous que le gouvernement a tort? Parce que chaque étudiant, il y a 4 personnes qui dépendent de lui dans sa famille. Alors, si vous multipliez par 4 les 200 000, regardez la quantité de population au vote qui vont voter contre ce gouvernement.
Parce que on parle
vous
des étudiants qui sont
dire?
En grève, sauf que je dis qu'il y a des implications sociales. J'en parlais tout à l'heure, c'est ça. Oui. Il y a des implications sociales, comme je disais. La hausse, elle va affecter qui? Elle va affecter les gens qui sont pas capables de la payer en ce moment.
Tout à fait.
Elle va, et les familles de ces gens-là. Donc, c'est une classe moyenne assez large de gens qui vont devoir couper en quelque part et qui vont devoir réinvestir là-dedans.
Mais n'oublie
donc,
pas que cette classe-là, la classe
moyenne,
s'endette,
c'est encore la classe qui paye pour tout. Oui. Donc, je veux dire, le fait de dire, on fait votre juste part, c'est faire sa juste part par quelqu'un d'autre. Donc, c'est la classe moyenne qui se retrouve à payer le gros. Fait que on n'envoie plus la facture aux riches qui n'ont pas de difficulté à envoyer leurs enfants à l'école, qui, eux, sont allés à l'école payés par leurs parents. Et je veux dire, bon, il n'y a pas juste des riches qui ont les parents qui payent pour leurs études. Là. Je ne veux pas faire deux grosses classes, là, riches pauvres.
Ouais.
Mais... Il y a un problème qui se cause dans le fait qu'on est en train d'isoler une classe sociale qui, elle, va se retrouver à payer plus et ça sera plus réparti sur toute la société, cette dépense-là. Moi, je trouve que ça a des implications sociales majeures, ça.
Mais je me souviens, vous avez donné un exemple une fois sur un étudiant qui travaille au même temps.
Ah oui, on a fait un calcul. J'ai fait avec une personne qui a un doctorat, justement. J'ai fait un calcul. Qu'est-ce que ça coûte à un étudiant qui serait en dehors de chez eux, qui vivrait dans un appartement, qui aurait un coloc ou une coloc.
Et qui souhaite se poursuivre ses études.
Savez-vous que 12 000 $ ne sont pas suffisants par chaque étudiant?
Ouais.
Pourquoi? Si on pense à la bouffe, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent. Mais attention, c'est qu'ils travaillent en plus de ça. Il est débordé. Des fois, ils tiennent 2 jobs. Un job, excusez-moi, chez McDonald's, une job dans un petit café, et ils essayent d'avoir 2 jobs en même temps, et vous savez qu'ils finissent par décrocher, ils sont brûlés à la fin. Alors moi, ce que je veux dire, essayons d'épargner nos jeunes. Donnons une chance à nos jeunes d'être la classe moyenne qui payera les taxes dans le futur.
Mais surtout que c'est ça, c'est que ces gens-là vont faire vont avoir...
Edgar, oui.
L'autre chose, vous avez parlé des gens qui travaillent à deux jobs. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas trouver travail.
Donc, ils sont obligés.
C'est évident.
Comment est-ce qu'ils vont étudier?
C'est évident. Alors, ils se privent, et puis des fois, écoutez, les parents peuvent les aider un peu. Des fois, n'oublions pas qu'il y a des parents qui sont divorcés. Ils ont beau avoir chacun un revenu, et des fois, un, il dit, oh, démerde-toi, et puis moi, je veux rien savoir. Et puis, c'est la mère qui se trouve à travailler comme une folle et avoir juste 30 000 $ Et puis, les étudiants n'ont pas automatiquement une gratuité parce que le père fait 30 000 aussi.
Voilà. Mais juste rapidement, comme ça.
Monsieur Frichette, oui.
De toute manière, je veux dire, est-ce qu'on veut que la capacité d'aller à l'école dépende du revenu de nos parents? Est-ce qu'on veut que ça soit un facteur qui compte, ça? Parce que ça, c'est aussi une implication sociale importante. Je veux dire, c'est dire, est-ce qu'un étudiant doit dépendre du fait que ses parents ont économisé pour lui pour qu'il aille à l'université? Moi, je crois que non.
Finalement, Mme Frichette, est-ce qu'y a-t-il un espoir au bout de ce tunnel? Est-ce qu'y a-t-il un espoir au bout de ce tunnel?
Ben, absolument. Je pense qu'avec le temps, je réalise que le monde qui... le monde qui démontre un peu d'ouverture d'esprit puis un peu de sens, un peu d'esprit critique envers ce qu'on nous présente dans les médias. Je pense que la moyenne est capable de déchiffrer, comme je disais tout à l'heure, capable de déchiffrer l'irresponsabilité du gouvernement et de se poser des questions, des vraies questions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde qui se mobilise pour une fois? Ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas été mobilisé. Et à ce point-là, je pense que le monde, de plus en plus, on gagne en opinion publique, même si c'est pas démontré dans les chiffres, parce que le monde se pose de plus en plus de questions. Je pense qu'on a un réel espoir en notre... en notre société, justement par le fait qu'on puisse se mobiliser sur une question aussi précise, puis dire, écoute, à partir de cette question, on veut restructurer notre société, on veut se poser des affaires sur notre vision à long terme.
Tout à fait.
Puis je pense que ça, c'est tout à fait rassurant pour moi.
Très bien. Monsieur Frichette, est-ce que pour vous, c'est un réveil pour la population? Je ne veux pas dire que la population dort.
Non, mais on a vu des gens. Mais moi, ça me fait tellement plaisir quand je vois des personnes qui ne sont pas des étudiants.
Cette énergie-là qui se déplore.
Oui, qui portent le carré rouge. Je suis toujours comme fasciné parce qu'on voit, en fait, et je suis content, en fait, parce que pour une fois... Je sais pas, moi, étant étudiant en sciences politiques, je prends un malin plaisir à trouver tout ce qui est mal dans le monde et tout ce qui fonctionne pas. Et là, t'as toujours l'impression d'être le seul à crier, le seul à être fâché. Et là, tu vois des gens. Et là, tu croises des gens qui sont d'accord avec toi. Et tu fais, je suis pas tout seul. Et ça fonctionne. Et on est content de le voir. Et je suis vraiment content. C'est la première fois, je trouve, que moi, depuis que je suis né, j'ai 22 ans en ce moment, que je vois des gens se mobiliser pour une chose ensemble. C'est vraiment...
Ils sont passés mes 22 ans.
Madame Johnston, est-ce que c'est pour vous, c'est un début de changement dans la société québécoise? Est-ce que le signe que la génération, nouvelle génération donne aujourd'hui, c'est un signe de mouvement, signe de changement?
Absolument. Et je trouve ça absolument inspirant de voir à quel point...
C'est courageant, c'est encourageant
plutôt.
C'est
très courageux. Oui.
De la part et tout. Roland, dernier mot.
J'ai un mot à dire, là.
Ouais, vite.
Les taxes scolaires, arrêtons de les dépenser bêtement et stupidement et employons-les pour les étudiants. Autre chose.
Je laisse,
il y a quelque chose de très important.
Oui.
Monsieur Kadir, Monsieur Legault, Madame Marois, sortez de la Chambre, ne siégez plus, ne négociez plus avec ce gouvernement-là, comme il fait pour les étudiants.
Je reviens comme dernier mot, Monsieur Dominique Frichette, avez-vous quelque chose à dire aujourd'hui aux étudiants, rapidement?
Oui, aux étudiants, en fait, et à toute la population, en fait, parce que c'est pas juste les étudiants. C'est un truc qui est social, en fait, et qui est pour toute notre société. C'est de continuer.
Mais pour l'effort.
Parce que c'est juste, en fait. C'est une lutte qui est juste et c'est une lutte qui est bien et qui ne profitera pas, contrairement à ce que plusieurs nous disent et ce que plusieurs essaient de répéter, qu'on est égoïste et qu'on fait ça juste pour nous. Ça profitera pas juste à nous.
Pour
c'est
vous,
pas
madame.
Donc,
pour...
continuez.
Bravo. Pour vous, madame Megan Johnston, le dernier mot, c'était quoi aujourd'hui pour dire aux étudiants, si vous avez un mot à dire?
Ben, par rapport aux étudiants, continuez, lutter. Puis, j'ai tout à fait confiance que ça va continuer dans le même sens jusqu'à temps qu'il se passe de quoi. J'ai aucun doute que ce mouvement va se continuer jusqu'au bout. Donc,
voilà. Voilà, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Donc, je souhaite remercier mes deux invités, Monsieur Dominique Frichette, étudiant en sciences politiques à l'UQAM, et Madame Megan Johnston, étudiante en maîtrise en communication à la même université. Je les remercie d'avoir participé à cette émission qui nous a éclairé le mieux la pensée de nos étudiants. Merci à mon collègue Roland Cazès pour ses interventions et sa fidélité. Merci aussi à notre ami Edgar Robin pour son intervention aussi. J'aimerais bien aussi remercier de ma part Madame Suzanne Charlon pour le soutien technique et sa patience surtout. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. À moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure. D'ici là, passez une excellente bonne fin de semaine. Au revoir.
Merci, Monsieur Hatch.
Arrivés en Westphalia, criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam, on se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux plis poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la main foule grelottait en ce 3 juillet du printemps. Et aux étudiants qui boxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes tombaient.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous que votre décès, c'est votre famille qui décide. C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.